Gloire à Dieu.
Amen.
Alléluia. Merci, Majesté, pour ta fidélité. Merci, Majesté, pour ta présence. Je crois que il est bon de se rendre compte que celui que nous appelons Christ est également majestueux. Et également celui qui a choisi de quitter sa gloire pour venir sur terre pour nous sauver. C'est pas juste on peut rentrer dans la présence de Dieu parce que tout va bien. Non, c'est parce que Jésus a choisi délibérément de venir sur terre pour nous sauver. Je tiens à vous remercier pour votre accueil. C'est une joie de revenir devant vous ce matin. Donc je m'appelle Laurent, puisque voilà, peut-être quelques-uns qui n'ont pas entendu la semaine dernière. Mais vraiment, j'étais réjoui parce que Marc m'a redemandé, m'a reproposé de venir ce matin. Et c'est toujours une joie d'annoncer l'Évangile. Et donc, j'aimerais prendre avec vous un texte de Philémon. C'est dans la Nouvelle Alliance, hein, pour ceux qui cherchent. Et excusez-moi, mais on va le lire en entier. Parce que je pense que c'est pas juste une prédication. Il faut se rendre compte vraiment que le plus important, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que je vais dire. Le plus important, c'est de saisir la parole. Que nous puissions nous imprégner de ce qui est écrit pour que nous puissions comprendre. Et c'est pas juste avec ma simple compréhension, c'est que vraiment vous puissiez être visité par Saint-Esprit pour que vous aussi vous puissiez comprendre. C'est pas les révélations de Dieu par sa parole, c'est pas réservé à l'élite, c'est réservé à chacun d'entre nous. Et j'ai une bonne nouvelle, vous faites tous partie de l'élite. Pourquoi nous sommes appelés à être élite? C'est que simplement, lorsque Moïse a été après les 10 commandements, après qu'il ait reçu les tables, il est remonté avec les 70 anciens, et les 70 anciens sont montés sur la montagne aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Dieu dans toute sa splendeur, debout, sur un étang d'eau qui s'appelle lapis lazuli. C'est un diamant de très haute précision et vraiment très rare. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Et ça, pour moi, ça a travaillé mon cœur, parce que je crois que voir la gloire de Dieu, ce n'est pas réservé simplement à ceux qui sont du dehors. Non, c'est réservé à chacun d'entre nous si nous sommes appelés à être des élites. Nous sommes appelés à être l'élite. Bien souvent, je crois que l'Église, c'est complet à être dans la moyenne. C'est bon, j'ai eu. On va dans le monde, et quand on dit qu'on est chrétien, ah oui, toi, bon. Mais je crois qu'être chrétien, c'est carrément tout le contraire. On est appelé à vivre l'excellence.
Amen.
On est appelé à être la tête et non la queue. On est appelé à être de l'excellence. Excellent au travail. Excellent en cours. Excellent dans notre vie. Excellent dans notre famille. C'est pas anodin. On est appelé à être l'élite au milieu du peuple de Dieu, mais également dans le monde. Et ça, je crois que ça fait partie des choses que on n'a pas l'habitude d'entendre, pardonnez-moi. Et je crois que, vous savez, c'est très facile de dire, bon ben finalement, je mets un peu de recul parce que ma priorité c'est Dieu. C'est très facile. Je crois que si ta priorité c'est Dieu, et de vivre selon son cœur, ta priorité c'est de l'honorer par ton excellence. Et quand tu pries, et ça va être le thème aujourd'hui, mon cher frère, j'ai le titre du message. Ah oui, tu l'as. Pour moi, le titre de ce message, ce sera un cœur d'intercesseur. Avoir un cœur d'intercesseur. Bien souvent, l'Église ne prie pas parce qu'elle ne sait pas comment prier et pourquoi elle prie. Ah si, on prie quand ça va mal. On prie quand on a des vrais sujets de prière. Mais quand on n'a rien demandé, on n'a plus de prière. Je crois que le cœur d'un fils et d'une fille de Dieu, c'est aimer sa présence dans la prière. Et j'ai fini de construire ma maison il y a à peu près 6 mois, et on a mis un tapis dans la salle à manger. Et ce tapis, je me suis dit, ça, mon tapis de prière, il va être dans la salle à manger. Et on a l'habitude d'avoir un lieu de prière un peu reclus dans la maison, un peu caché, en se disant, bon, ben, c'est là que je vais avoir mon temps avec Dieu. Je crois que j'aime l'idée que l'endroit où j'ai rendez-vous avec mon Dieu, c'est l'endroit où j'ai rendez-vous avec mes amis. Parce que les personnes qui rentrent dans ma maison, je veux qu'ils sachent que Jésus est ma priorité. Alors effectivement, mon tapis de prière, il me brûle un peu le front des fois. Ma femme me dit, tu vas devenir quand même musulman avec un truc, je dis, t'inquiète pas. Simplement, je crois qu'il est nécessaire de comprendre, de passer un stade où je dois prier, et je prie parce que c'est mon oxygène. De passer du moment où je dis, bon, il faut que je me lève, au Seigneur, je me réveille parce que j'ai tellement envie, j'ai tellement hâte de te retrouver. Quand j'étais fiancé, j'avais hâte de retrouver ma fiancée. J'habitais à 600 km de chez elle. Je la voyais une fois par mois, un week-end. Et encore, un demi-week-end. Mais j'aimais la retrouver. Et ça a duré 3 ans et demi. C'est long, hein? Je crois que avoir envie de retrouver la présence de Dieu, c'est comme de fiancer. Avoir hâte de retrouver Jésus. Avoir hâte de retrouver le cœur du Père. L'épître à Philémon, verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée à Philémon, notre collaborateur bien-aimé. À Appia, notre sœur, à Archite, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui est dans ta maison. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance et de tout ce qui est bon en nous pour le Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et d'encouragement à cause de ton amour, car par toi, mon frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te supplie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il est bien utile, et à toi, et à moi. Je te l'envoie, lui qui est une partie de moi-même. Moi, j'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est tout particulièrement pour moi, combien plus ce sera-t-il pour toi, et dans la chair, et dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai moi-même pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, mon frère, rends-moi ce service à moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras encore au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit avec votre esprit. Amen. La première des choses, verset 1, Paul va déjà se situer. Il va s'identifier.
Vous savez, la plupart du temps, on prie parce que, comme je l'ai dit, on doit prier, mais c'est souvent parce qu'on ne connaît pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Et qui nous sommes. Ça fait partie des choses que Dieu a mis en place, ce sont les noms. Chaque nom a une signification. Chaque nom veut dire quelque chose. Le diable a volé, il a mis avec les horoscopes et tout ça. Le diable a volé, mais les noms veulent dire quelque chose. Vous savez, le livre des Chroniques, bien souvent, au début, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ces noms? Jusqu'au moment où je me suis dit, maintenant, il doit y avoir quelque chose. Si Dieu l'a écrit, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Obligé. Le premier livre des Chroniques, chapitre 1, des versets 1 à 6. Si on prend la signification de chaque prénom, il y a la prophétie de Christ. Il dit qui nous sommes, que le diable a été anéanti et que l'homme a été racheté. Si vous voulez, je vais sur les USB. Chaque prénom a une signification. Et Dieu a choisi ton nom et l'a mis en place pour que tu sois identifié. Et aujourd'hui, notre identité est en Christ. Et l'Apocalypse dira que à chacun des rachetés, donc au vainqueur, il a été donné un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est inscrit un nom. Ce nom, seul celui qui le reçoit le connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que, oui, nous avons un nom que chacun communique à son ami, ce que nous sommes, qui nous sommes, mais nous avons notre identité en Christ. Nous avons notre identité dans l'Église. Parmi les cinq ministères, eh bien, il y a un ministère et ça peut correspondre à ton nom. Moi, on me surnommait Pierre, parce que je suis un peu fougueux. Et je réalisais ce matin que dans quelques jours, ça fera 12 ans que j'ai donné ma première prédication. 12 ans que j'ai prononcé ma première prédication, et j'avais pas 18 ans que j'ai commencé à évangéliser dans les rues. Et c'est ce qui a créé mon nom. C'est mon identité. Mon identité est en Christ. Ce n'est pas le faire qui va faire de nous quelqu'un. C'est l'être. Je pourrais vous donner on pourrait entendre un séminaire complet sur l'évangélisation. On ressort pareil. Par contre, je voudrais vous dire une chose. Tu veux évangéliser, sois toi-même. Être soi-même. Annoncer l'évangile, c'est être soi-même. Et pour ça, on a besoin de savoir qui on est. Être soi-même, parce que le monde, Paris, on a prié pour Paris. Paris n'attend qu'une chose, c'est de voir des hommes et des femmes avec une certitude de qui ils sont et qu'ils sont capables d'être eux-mêmes partout, avec une vérité certaine. On a parfois oublié d'être soi-même et ça a créé des intégristes religieux. Moi, je suis extrémiste pour Jésus. Je ne vais pas lâcher des bombes, ne vous inquiétez pas. Je crois que nous avons à faire attention que le fait que nous ne sachions pas qui on est en Jésus ne nous amène pas à une religiosité, mais nous amène à une relation. Lorsque j'ai dit ça à un de mes collègues, il me dit, mais comment tu vis ta foi? Mais Je dis, je viens, je dis bonjour. Comment ça, tu dis bonjour? Oui, ben, je te dis bonjour quand je te vois. Quand je vais vers Papa Dieu, je dis bonjour. Ah bon? C'est tout simple. Vous savez, on a tellement de tendances. Enfin, la vie avec Jésus n'est pas difficile. Une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on sait notre identité, mais on n'a plus rien à cacher. Bien souvent, j'aime dire que lorsqu'on rentre dans l'Église, on a le droit d'être soi-même. Parce que quand on est dans le monde, il est très facile de porter un masque. J'aimerais vous dire que le monde attend qu'une chose, c'est qu'on tombe les masques. Le monde n'attend qu'une chose, c'est que nous tombions les masques. Nous prions et nous chantons, nous proclamons que oui, tout est possible à celui qui croit. Mais on ne le montre pas. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on proclame, oui, tout est possible à celui qui croit. Mais on ne le vit pas. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et je crois que ça commence par là, de savoir qui on est. Qui on est en Jésus, pourquoi ? Je me suis rendu compte que lorsque on rentre dans le tabernacle, si on étudie un petit peu, je me suis un peu passionné par le tabernacle, je ne vais pas vous faire un dessin aujourd'hui, mais quand on rentre dans le parvis, il se trouve une bassine en bronze, n'est-ce pas ? Le bronze qui est utilisé pour faire des miroirs. C'est là qu'on se lavait. Ensuite, on rentrait dans le lieu saint. Dans le lieu saint, donc, entre autres, il y a le chandelier, la parole. La parole qui est un miroir. Et quand on rentre dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de lumière. La seule lumière, c'est la gloire de Dieu. Et c'est Jésus qui te tend le miroir. Non pas pour te regarder toi, mais c'est pour que le Père voit Jésus à ta place. C'est ça notre identité. Notre identité, c'est ça. De savoir que le Père, lorsque je viens dans sa présence, il ne voit pas moi, il ne regarde pas moi dans mon imperfection et ma souillure. Non, il regarde à Christ. Il a dit à Moïse, Moïse, tu te cacheras sur le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ, le rocher, et je passerai devant toi et tu verras ma gloire. Nous sommes Paul, comme il dira verset 1, Paul prisonnier de Jésus-Christ. Mais parfois, c'est Jésus qui est emprisonné à l'intérieur. On lui donne pas tout accès. Paul prisonnier de Christ. Seigneur, je veux être ton prisonnier. Je ne veux pas que tu sois mon prisonnier. Oui, nous avons accès auprès du Père. Et c'est une grâce. Ne l'oublions pas. Mais souvenons-nous d'où nous venons. D'où je viens. Alors oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour mes parents qui ont été fidèles. Reconnaissons qui nous sommes. J'avance d'une heure. Et alors, wow. C'était le premier point, il y en a 11. Alors, donc j'y vais plus vite. Versets 4 à 7. reconnaître la gloire de Dieu, le Père. Reconnaître la gloire de Dieu pour, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il représente. Reconnaître Dieu dans sa souveraineté, reconnaître Dieu dans toute sa splendeur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour ça que j'ai commencé « Merci Majesté » parce qu'on reconnaît que Dieu est majestueux. Que Dieu est Dieu. Et que si j'ai accès auprès de lui, c'est parce qu'il m'a fait grâce. Quand on considère encore le tabernacle, avant de rentrer dans le Saint des Saints, le voile a été déchiré. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur ce voile ? Deux chérubins. Les chérubins, ils sont toujours. Les chérubins, ils sont toujours. On ne rentre pas dans la présence de Dieu comme on va au marché. Excusez-moi. Reconnaître que Dieu est souverain. Reconnaître que Dieu est dans toute sa gloire souverain. Et il aime bénir ses enfants. C'est un privilège immense que de rentrer dans sa présence. C'est un privilège. Le psalmiste dira, adorer l'Éternel, louer l'Éternel, c'est là mon privilège. Il est là mon privilège. Vivre sa présence, vivre auprès de lui. Et je crois que la prière, ce n'est pas juste un temps défini, c'est un savoir-vivre. Dans tout ce que tu fais, dans les moindres détails, Père, donne-moi de ne jamais attrister ton Saint-Esprit. Donne-moi de ne jamais attrister ton Esprit Saint, de ne jamais négliger ta souveraineté et ta puissance. Le verset 9 nous dit, tel que je suis moi, un vieillard. Paul va reconnaître jusqu'à même ses faiblesses. Je vais vous raconter une histoire. En 2003, alors que je dormais, vers 2h du matin, le Saint-Esprit m'impose de prier. Il me dit, Laurent, lève-toi, prie, le Satan cherche à te détruire. Ok. 2h du matin, très sincèrement, je préférerais dormir. Je me suis levé, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Environ 3 minutes, peut-être un peu moins. Mais je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, tout est là, tout va bien. Peut-être une demi-heure plus tard, j'étais recouché, une demi-heure plus tard, la même voix s'impose à moi. Et trop fatigué, je me suis endormi. Ce qui s'est passé ensuite, aux alentours de 5h du matin, m'a saisi. C'est-à-dire que j'étais couché et j'étais totalement paralysé. Mais paralysé, totalement les paupières fermées, impossible de les ouvrir, impossible de parler, plus possible de faire quoi que ce soit, tétanisé totalement. Et une oppression terrible. Et ne pouvant pas parler, je criais Jésus. J'invoquais son nom et son sang en moi. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. La priorité, c'est de demander pardon. Si vous voulez que l'ennemi vous lâche, demandez pardon. Ça évitera bien des portes ouvertes. Et lorsque, enfin, je commençais à retrouver un peu mes sens, j'ai réussi à ouvrir un tout petit peu l'œil. Et là, en moi-même, en un millième de seconde, j'ai dit, mais mince, j'ai loupé l'art, il y a grand soleil. Il y avait une luminosité dans ma chambre à 5h du matin que je n'ai jamais vue, que je n'avais jamais vue. C'était mon Seigneur qui avait envoyé son ange pour combattre pour moi. Dans ma faiblesse, lorsque tu es faible, il y a une importance capitale également, c'est de reconnaître nos faiblesses. Nous avons besoin de reconnaître nos faiblesses. Nous sommes humains, je suis un homme, avec des pensées, avec des malfaçons, oui. C'est mes propres malfaçons. Et je viens dans ma faiblesse, parce que lorsque j'ai reconnu ma faiblesse, comme Jean-Baptiste le dira, je veux diminuer pour que tu croisses. Que je diminue afin que tu croisses. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a reconnu d'abord sa faiblesse pour que Christ soit élevé. Quand tu viens devant Dieu, quand tu viens prier, il y a un point essentiel, c'est de reconnaître nos faiblesses. Reconnais tes faiblesses et ensuite, le verset 10, ça va être le début de l'intercession. Le verset 11 dira, va bénir vraiment le sujet. Il va bénir, et je n'ai pas dit flatter, hein. Bénir le sujet de nos prières. Bénir. Il y a quelques années, peut-être vous avez entendu cette histoire, un meurtrier qui avait commis à peu près 63 meurtres connus, et apparemment il s'avérait qu'il y avait plus d'une vingtaine inconnus. Il a été retrouvé et avant sa condamnation, il a été confronté aux familles. Et les familles sont passées une à une en proclamant des paroles terribles contre cet homme. Cet homme totalement de marbre n'a jamais réagi jusqu'à une personne. C'était une maman qui avait perdu sa fille. Elle a pris le micro. Elle a dit, voici. Je sais ce qu'il a fait. Je lui pardonne. Cet homme est resté de marbre plus de 2 heures à entendre les critiques et les paroles terribles de personnes. Cet homme s'est mis à fondre en larmes, à hurler de douleur, simplement parce qu'il a entendu « Je lui pardonne ». Bénir ne veut pas dire flatter. Bénir, ça veut dire que tu reconnais ses qualités en tant qu'homme. Tu ne cherches pas à regarder ce qu'il a fait, mais tu le regardes en tant que racheté, aux yeux de Dieu. Cet homme était totalement perdu. Il entendit « Je te pardonne », il se repentit de ses œuvres. Il a été condamné, bien sûr, mais il a donné sa vie à Jésus. Lorsque j'étais au collège, j'avais des profs avec qui c'était très difficile. Et la seule possibilité de réussir et d'avancer malgré tout cela, c'était de bénir mes profs. De les bénir dans le nom de Jésus. Mais attention, parfois, on bénit à tout va aussi. Il y a aussi un grand équilibre à avoir. Parce qu'on peut bénir des œuvres du malin. Attention. Mais bénir en tant que personne. Ne pas bénir ses œuvres, mais bénir la personne. La personne que Dieu a créée lui-même. Et qu'il aime. Je me dépêche. Vous savez, on peut comprendre également que à l'époque de Job, il y a eu le Satan qui était vers Dieu lui-même. Et puis, il a tout remis en doute. La tout remet en doute. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Eh bien, il a continué et a dit « Ok, mais ne le touche pas lui. » Pourquoi? Parce que l'identité de Job n'était pas dans ce qu'il faisait, mais ce qu'il était. Et bien sûr, Job a été infiniment béni. À l'époque de Dorca, ou Tabitha, qui veut dire gazelle, qui a été ressuscité. Les femmes qui ont accueilli Pierre ont dit, mais regarde ce qu'elle faisait. Regarde les tuniques qu'elle nous faisait. Waouh ! Pierre a vu au-delà encore. Il a béni en tant que personne. Versets 13 et 16, des versets 13 à 16, il y a également il va exposer les faits. Voici ce qui se passe. Afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Voici les faits. Quand tu pries pour une personne, sache pourquoi tu pries. Une fois que tu arrives à ce point-là, tu dis voilà, Père, mon bien-aimé est emprisonné par les conséquences peut-être d'un acte. Il est emprisonné. Il est enchaîné. Et j'aime particulièrement le verset 20, le verset 17. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. Et verset 19, moi, Paul, je m'écris de ma propre main, je te rembourserai moi-même pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'identifie totalement à la personne. Tu pries pour quelqu'un qui est malade, ou tu as l'impression qu'il tombe, il sombre dans le péché. Tu t'identifies totalement à cette personne. C'est-à-dire que tu t'appropries toi-même les conséquences. Ça éviterait bien des jugements. Parfois, on prie, on se dit, on est un petit peu comme sacrificateur. Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme. Je crois vraiment que nous avons besoin d'apprendre à nous identifier, à nous approprier les fardeaux des uns des autres. Ton frère est dans la peine, ta sœur est dans la peine. Approprie-toi cette peine. Imagine que c'est toi-même, que c'est toi qui as cette peine. Tu vas te rendre compte que le zèle pour la prière va être démultiplié. Parce que tu vas prier comme si c'était pour moi, comme si c'était pour toi-même. S'approprier tout ce que ton bien-aimé peut souffrir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est alors que tu vas comprendre ce que Christ a fait. Parce que Jésus lui-même a porté la totalité de nos fardeaux, de nos péchés, nos douleurs, nos maladies. Et ne t'inquiète pas, ne reste pas frustré si le Seigneur ne te répond pas tout de suite. Ça fait maintenant 7 ans que ma maladie s'est déclarée. Et peu de temps après, j'ai dit, Seigneur, avec ou sans la guérison, avec ou sans la réponse à mes prières, avec ou sans celles et ceux qui ont prié pour moi, qui étaient des pointures spirituelles, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est que mon service pour toi soit intègre. Le plus important, ce n'est pas ce qui m'arrive. Le plus important, c'est ce que je suis pour lui. Amen. La formation que je vais faire actuellement à Nanterre est extrêmement difficile. Pour moi, c'est extrême. On pousse les gens à bout pour voir comment ils réagissent en cas de problème. Vipère. Peu m'importe que je l'ai ou non. Ma priorité, c'est d'annoncer ton évangile. Et c'est pour ça que je suis là devant vous ce matin. Simplement parce que ça ne m'empêche pas de travailler. Hein. Il faut que je travaille. Hier, j'ai passé la journée à bosser. J'avais une tête comme ça, quoi. Hier soir, quand je préparais le message avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta force. J'ai fait cette promesse. Père, je veux accomplir ta volonté, quelles que soient les conséquences dans ma vie. Et si cette formation, je ne l'ai pas, eh bien, ça ne changera rien. Je t'aimerai quand même et je te servirai quand même. Parfois, quand on prie, on fait souvent un marché avec Dieu. On dit, Père, quand tu vas me répondre, je te servirai. Ou, je vais annoncer ton évangile. Et puis, le plus loin possible, parce que peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent. Mais vous savez, s'il y a un décalage entre ce que vous êtes et ce que vous annoncez, sans rien dire, je vous promets, sans rien dire, le monde le verra. Quand tu annonces l'évangile et que tu es toi-même, je vous promets également une chose, ils le verront aussi. S'identifier totalement. Le péché est rentré sur le compte de Paul. Il est sur son compte. Et c'est pour ça qu'il prie. C'est comme ça qu'il prie. Et vous savez, j'ai un petit frère avocat, Zacharie, pour celui pour qui vous avez prié. Donc il est dans les études, et il m'a jamais dit que lorsqu'il préparait un plaidoyer, c'était pour récupérer la faute d'un autre. En disant, ben c'est moi, c'est moi, lui il est innocent, c'est moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Et pourtant, Jésus l'a fait. Tu as plaidé coupable, et lui l'a porté. Devant le juge, il a dit, Laurent, il est innocent. Comment ça, innocent? Si, si, il est innocent. Waouh! Quelle gloire! Ça veut dire que le seul avocat au monde qui est capable de récupérer tout ce qui peut nous anéantir et nous mettre en tôle, Jésus l'a porté. Je ne parle pas des conséquences, c'est un autre thème. Les conséquences du péché, c'est la mort. Les conséquences de nos actes, nous avons à les payer aussi. C'est autre chose. Et enfin, je terminerai. Merci de votre patience. Le verset 20 nous dit, « Oui, mon frère, rends-moi ce service à moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Christ. » Là, on sent une effervescence à l'intérieur, dans le sens où il a pu passer du temps avec Dieu. Il a pu passer du temps avec Dieu. Il a pu passer du temps à prier pour son frère, à intercéder. Tranquillise mon cœur. Mon cœur est maintenant tranquille. Je suis apaisé parce que j'ai pu déposer mon fardeau. Je suis apaisé. Et le verset 21 nous dit, c'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris. Parce que je sais que tu feras encore au-delà de ce que je dis. Et moi, ça me fait penser à un petit texte de Éphésiens 3:20 que je suis sûr que vous connaissez, mais je suis obligé de prendre tellement c'est bon. « Parce que nous savons, du reste, qu'il accomplira toujours au-delà de ce que nous pouvons espérer ou même penser. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Et on finit par rendre gloire à Dieu. Parce que nous, nous avons fait notre travail, lui fera le reste. Et vous savez, la prière, je crois que ce n'est pas une option. La prière pour un disciple de Jésus-Christ n'est pas une option. Parce que tu touches le cœur du Père et c'est le seul moment où tu peux vraiment être efficace. La prière agissant du juste est d'une grande efficacité. Mais si la prière n'est pas utilisée, elle ne sert à rien. Ce que Dieu a mis en place, il l'a mis en place pour que ses enfants puissent vivre une communion avec lui. Reconnaître ton frère comme supérieur, reconnaître ton frère comme un bien-aimé de Dieu. Et c'est toujours pareil, je ne cherche pas à flatter, je cherche à bénir, je cherche à vivre un cœur à cœur avec mes bien-aimés. Et vous êtes mes bien-aimés. Chacun et chacune qui invoque le nom du Christ Jésus est mon bien-aimé. Alors bien-aimés, que nous puissions vraiment vivre la prière, vivre ce que veut dire réellement la prière. Reconnaître la majesté de Dieu et que c'est un privilège de rentrer dans sa présence. Moi, ce qui m'émeut le plus dans un film, alors, c'est un peu particulier. Ce qui touche mon cœur, c'est par exemple de voir un amiral des armées eh bien, élever un simple soldat en disant « Tu as bien travaillé. » Un homme avec une supériorité notable qui va recueillir un homme et dire « Viens, tu as bien travaillé. Je reconnais qui tu es. » Mais c'est là le cœur de Dieu. C'est qu'il veut nous relever dans notre petitesse. C'est pour ça que reconnaître notre faiblesse nous permet d'être élevé. Parce que c'est lorsque je suis faible que lui est fort en moi. Bien-aimé, que tu puisses vivre passionnément la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne soupçonnes pas les réserves de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu rentres dans sa volonté parfaite. Dieu, parfois, nous laisse faire. Et c'est ce que je vais appeler la volonté permissive. Il va permettre que tu rentres dans le détour. Tu vas perdre du temps. Mais tu es dans sa volonté. Il est toujours là avec toi. Mais il veut aller plus loin. Il veut que tu rentres dans sa volonté parfaite. Des hommes peuvent avoir des grands projets pour toi. Tu as des grands projets pour ta vie. Mais Dieu a des projets précieux pour toi. N'en doute jamais. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute jamais que Dieu a des projets faits d'avenir. Des projets construits sur l'avenir. Un avenir construit sur l'espérance. Un avenir fait d'espérance. Que le Seigneur puisse vraiment être glorifié ce matin. Père bien-aimé. Merci pour ta bienveillance sur chacun d'entre nous. Merci, Père, de ce que tu restaures, tu fortifies, tu encourages et tu bénis. Tu ne manques pas de trésors pour chacun d'entre nous. Te demandons vraiment de vivre la bénédiction qui vient de toi. Et je te prie vraiment que chacun et chacune puisse vivre des expériences dans ta présence. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. Et que le monde voit que ton Église est une Église puissante. Une Église qui s'est rendue compte de ce privilège de rentrer dans ta présence. Des hommes et des femmes assoiffés de toi et des hommes et des femmes qui sont capables d'annoncer l'Évangile que l'occasion soit favorable. Dans son pays, dans sa patrie, dans le lieu où tu nous as placés, nous voulons être des justes, des justifiés sur cette terre pour proclamer la lumière. Toi, Père, le Père des Lumières, que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.